j'ai rencontré et parlé pendant 10 minutes avec le frère d'Olivier Giroud. Alors Olivier Giroud, pour ceux qui sont tout à fait hors du monde, c'est un joueur de football qui fait partie de l'équipe nationale de foot et qui était au dernier mondial et qui est un chrétien protestant évangélique qui a le psaume 23 tatoué sur le bras en latin. Et c'est le gars du kebab à côté d'ailleurs qui va fermer. Je n'aurai plus de très bon kebab le dimanche soir, mais qui me dit c'est le frère d'Olivier Giroud. Je dis non, tu me fais une blague là. Et puis il me dit non, c'est lui. Et puis effectivement, je vais vers lui et il ressemble à Olivier Giroud. Il est aussi grand que lui, mais il a les cheveux longs, puis il avait une grande croix sur son t-shirt. Hein. Et un type super sympa. Et lui aussi est chrétien. Et il témoigne de sa foi, il est nutritionniste dans le milieu sportif. Et je pensais que c'était la femme d'Olivier Giroud qui était la source de la foi un peu de la famille, du couple Giroud. Mais non, c'est la mère, ils sont trois frères, et c'est la mère d'Olivier Giroud et des deux autres frères qui a été un petit peu comme Monique pour Saint-Augustin dans l'article de Nathalie que vous verrez dans le Rio ou que vous avez déjà lu, qui a été la source de la foi de ces garçons. Et comme on est en train de parler du témoignage que l'on peut avoir, on a passé un week-end là-dessus, je pensais à ça, le témoignage de cette mère et puis le témoignage d'Olivier Giroud qui fait beaucoup, qui est discret, et le frère me disait que toute la famille, ils vivaient leur foi humblement, et j'ai bien aimé ce mot « humblement », parce que ça se montre aussi pour le joueur de football qui joue aujourd'hui à l'AC Milan, et il y a un Belge aussi qui joue à l'AC Milan, il s'appelle De Ketelaar, un vrai, et qui est aussi chrétien, et qui dit qu'il était tellement content qu'Olivier Giroud joue dans son équipe et qu'Olivier Giroud était pour lui comme un père spirituel au niveau de sa foi. Un beau témoignage que cette famille Giroud, alors je lui ai montré, il m'a demandé, mais elle est où votre église? On était à 15 mètres, mais il ne la voyait pas parce qu'elle est dans un petit renfoncement. Alors j'ai pu lui dire, alors si un jour, il y a un grand qui arrive avec une petite barbe, accompagné d'un autre grand, avec les cheveux en brosse, ben c'est les Giroud. Donc voilà, un beau clin d'œil de Dieu, là, et ça m'a réjoui toute la journée, cette rencontre avec le frère d'Olivier Giroud, si sympathique, vraiment cool, même cool, ouais, plus que sympa, cool. Alors, au niveau de la prédication, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on a terminé une série de prédications sur la deuxième lettre de Paul à Timothée. Moi, j'étais content, j'ai pris plaisir vraiment à vous accompagner avec ces prédications 8 ou 9 là, sur la dernière lettre que Paul ait jamais écrite, pas seulement à Timothée, mais à tout le monde, Philippiens, Colossiens, etc. C'était la dernière, il va mourir après en prison à Rome, et c'est donc une sorte de testament spirituel qui nous a laissé. Et aujourd'hui, je voudrais parler de tout à fait autre chose, faire un déplacement spatio-temporel, comme disaient les frères Bogdanov à l'époque, et vous amener dans le pays d'Outz. Le pays d'Outz, c'est le pays de Job. Job, vous savez l'expression « pauvre comme Job ». Job, ou toute une histoire qui nous touche, et qui touche tout être humain d'une façon tellement personnelle. Et Job, dans la Bible, est situé juste avant les psaumes. Il est comme les psaumes considérés, il est mis comme les psaumes dans les livres poétiques de la Bible. Alors on a hésité longtemps, les Juifs ont hésité longtemps, fallait-il le mettre avec les prophètes? Fallait-il le mettre avec les livres de la sagesse? Mais ils l'ont mis dans les livres poétiques. Alors, est-ce à dire que Job est un livre poétique ou que le livre de Job est un poème? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est un poème, c'est un poème qui dit vrai, sur des vraies questions. Et l'histoire de Job, donc vous l'avez compris, rien à voir avec Steve Jobs, créateur d'Apple, se situe au niveau des patriarches. Et tout indique dans l'histoire qu'on est dans les temps anciens. Mais Job ne fait pas partie des patriarches. Mais il est situé en dehors, il ne fait pas partie du peuple élu, non plus. Le territoire qu'il occupe ne fait pas partie d'Israël, il est un peu en dehors de tout. Et ce qui confère à son expérience une valeur universelle. Il y a un dénommé Assouline, Pierre Assouline, ça sonne nord-africain ou pied noir, ce mot Assouline, qui a écrit un livre, pas chrétien, sur les vies de Job, un livre excellent, et qui dit en page 103, je cite, « La force du livre de Job a été de rendre immédiatement universel et pour toujours le problème personnel de Job. » Voilà qui est bien dit. Tellement universel qui l'appartient au patrimoine littéraire mondial. On ne compte plus les œuvres, les livres, les peintures ou les pièces de théâtre basées sur le livre de Job. Victor Hugo disait du livre de Job que c'était le chef-d'œuvre suprême de l'humanité. Moi, je pensais que c'était Les Misérables. Mais non, c'est le livre de Job. Alors, c'est peut-être un chef-d'œuvre, mais le livre de Job est un monde, ou le monde de Job est un monde extrêmement difficile, douloureux, troublant, on n'y rentre pas facilement. Je lisais un autre livre d'un dénommé Swindoll, qui, comme son nom l'indique, est américain. Dans son livre sur Job, il raconte des histoires tout aussi terribles les unes que les autres, des histoires avec des séries de catastrophes qui tombent sur des personnes ou sur une famille, des histoires comme on en trouve aussi aujourd'hui. Et on a envie de dire, avec toutes ces histoires, bienvenue dans le monde de Job. On n'a pas envie d'y rentrer. Et dans le même temps, le livre de Job nous attire et nous fascine parce qu'il nous touche au plus profond de nous. Il éveille des choses en nous que l'on ne veut pas toujours voir apparaître. Quand on rentre dans le pays de Doutz, dans le monde de Job, on ne sait pas comment on va en ressortir. Changer, certainement, car ce pays est le pays de la souffrance sans raison. De la souffrance du juste. Le monde de Job, c'est le monde des questions sans réponse, du mal inexplicable, de l'injustice dans la vie, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est universel. Et pourtant, tout commence bien. Job 1, versets 1 à 3. J'ai rapproché le... Mais ça ne sert à rien, j'arrive pas à lire. Voilà, c'est bon. Tout commence bien pourtant, il était intègre et droit. Il avait 7 fils, 3 filles. Il était le plus grand des fils de l'Orient. Tout commence comme une belle histoire, un conte pour enfants, un récit tranquille, une histoire gentillette qui ne nous concerne pas vraiment, qui ressemble à toutes les histoires que nous nous racontons pour nous rassurer et pour nous endormir plus facilement. Comme ma femme préfère regarder à la télévision des films tranquilles qui finissent bien, Downton Abbey ou des bazars comme ça. Moi, je préfère les films noirs scandinaves avec plein de tensions. Et puis, au détour d'une phrase, dans le livre de Job, tout dérape et nous nous retrouvons dans un autre monde. Et cette phrase, nous la retrouvons au chapitre 3, au verset 1. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et ici, le style change. On n'est plus dans le récit tranquille. On n'est plus dans la success story. On n'est plus dans le rêve américain. On n'est plus dans le rêve français non plus, du petit pavillon en banlieue. Job nous entraîne dans un monde où on ne pensait pas. Allez, et on rentre aussi dans la partie poétique du livre qui va s'étendre jusqu'au chapitre 41. 38 chapitres de questionnement. Et cette surprise et ce changement de ton entre le chapitre 1 et le chapitre 3 sont le propre du malheur. Il nous tombe dessus, sans prévenir, sans crier gare. Et nous ressentons d'abord la surprise avant d'avoir mal. Pourquoi moi ? Que m'arrive-t-il ? Ce n'est pas vrai. Pourquoi le sort s'acharne-t-il contre moi ? Je ne sais pas si vous avez vu le film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Pour moi, un des meilleurs films. Alors, je ne sais pas si c'était ce siècle déjà, je crois. Hein. 21e siècle, plus, non, 20e siècle. Oui, 80 et quelques. Donc, le meilleur film, un des meilleurs films du 20e siècle. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du début, mais il y a une scène très émouvante. On voit une femme d'une cinquantaine d'années qui est dans sa cuisine et qui regarde par la fenêtre en faisant distraitement la vaisselle. Il y a des petits rideaux, la fenêtre est mignonne. C'est la campagne, là, et on voit une route sinueuse qui arrive jusqu'à la maison. C'est une maison isolée. Elle voit une voiture qui serpente sur la route et qui vient vers la maison. C'est certainement une voiture officielle. Effectivement, la voiture s'arrête et il y a trois hommes qui en sortent en costume militaire. Et elle voit les militaires s'avancer, elle serre son tablier sur son visage. Et quand l'officier lui apprend que trois de ses fils sont morts au combat, elle tombe, littéralement, mais elle tombe pas brutalement, elle tombe doucement. C'est comme si elle s'asseyait, elle s'effondre. Et c'est un moment super beau, et on voit que les militaires sont tellement émus de cette scène qu'ils vont après faire un rapport et faire tout pour sauver le quatrième fils, le soldat Ryan, Matt Damon. Quelle belle image. Mais le malheur s'abarre comme ça, brutalement, sur le pas de la porte. Et sur cette image, vous voyez, enfin, vous voyez peut-être que Job est sur le pas de la porte aussi, sur le seuil de sa porte, et on vient lui apporter des mauvaises nouvelles, et vous voyez le ciel s'assombrir, le vent souffler, les arbres sous le vent, comme si tout basculait, et Job est surpris en plein bonheur. Alors, les lecteurs habitués de la Bible, ou presque, ou peut-être pas habitués, mais je vous l'apprends, on sait ce qui se passe, cette rencontre entre Dieu et le mal personnifié en Satan, l'adversaire, une rencontre quasiment mise en scène par l'auteur, une rencontre un peu troublante également, mais il me semble ce qu'il faut retenir de cette rencontre entre Satan et Dieu, plus que la mise en scène, c'est la mise en doute. La mise en doute par l'adversaire du désintéressement de Job. Et l'adversaire va dire, en quelque sorte, c'est facile de te suivre quand tout va bien, mais enlève les bénédictions et on verra ce que va faire ton héros, Job. Ton super Job. On va voir. L'adversaire répondit au Seigneur, est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau s'accroît dans le pays, mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient, à coup sûr, il te maudira en face. Et on s'aperçoit que Satan met en doute le principe d'une relation gratuite et désintéressée entre Dieu et Job. Et c'est en fait le principe de la grâce. Une relation gratuite, c'est le principe de la grâce qui est remis en question par l'adversaire de Dieu. Et ce n'est pas rien parce que c'est elle, la grâce, qui nous fait vivre la vie de Dieu et la vie en Dieu et la vie avec Dieu. C'est la grâce. Donc, cette mise en doute est tellement cruciale, importante, et l'enjeu est énorme. Et Job va devenir non pas une marionnette entre les mains de forces invisibles, comme on le pense parfois, comme mon père le pensait, et il n'aimait pas ce livre de Job. Mais comme, voyons Job comme étant un témoin de la grâce de Dieu, et il va témoigner qu'une vie, qu'une relation avec Dieu désintéressée est possible, même entre Dieu et un homme qui souffre. C'est possible avec Job. Et donc, cette histoire, dans cette histoire, Satan n'est pas important. Il n'a pas le premier rôle, il est tout à fait secondaire. Pour preuve, à la fin de l'histoire, il n'apparaît plus. Il aurait été facile de mettre en avant une scène à la fin où Dieu, tout content et tout fier, puisse dire à Satan, « T'as vu, Job, mon héros, il a résisté. Mais tu as perdu ton pari, j'ai gagné, je suis le plus fort. » Non, il n'y a pas tout ça. Nous ne sommes pas dans un contexte de combat entre deux puissances égales qui se disputeraient un pauvre homme qui ne sait pas ce qui lui arrive. Non. Ce qui importe, c'est Job dans sa relation avec Dieu. Ce qui importe, c'est nous dans notre relation avec Dieu quand survient la souffrance. Mais Job, c'est vrai, ne sait pas ce qui se passe au ciel. Et dans le livre de Job, comme, il y a comme deux scènes, la scène céleste et la scène terrestre. Nous sommes comme Job sur terre et nous ne savons pas ce qui se passe dans le ciel. Quel est l'enjeu de ce qui nous arrive? Nous sommes comme Job en prise avec la réalité, parfois clémente, souvent difficile et toujours complexe. Alors pour Job, la situation est désastreuse. C'est simple, il a tout perdu. Enfin, pas tout, mais il n'a pas perdu la vie. Une première série de catastrophes plus ou moins naturelles. Il perd ses troupeaux, il perd ses serviteurs, il perd sa richesse, il perd ses enfants dont il était si fier. Une deuxième série où on touche à son intégrité physique, un ulcère malin des pieds à la tête. Et c'est là qu'il se tient sur le tas de cendres et il se gratte avec un tesson. Il est malade et repoussant. Et il est seul, comme tu le disais, Michel, tout à l'heure, dans la souffrance. Seul dans sa détresse, il y a une solitude incompressible dans la souffrance. Même dans les couples les plus unis, on ne peut pas tout partager. Il y a une limite dans la compréhension que l'autre peut avoir de ma souffrance ou de la souffrance de l'autre. Et pour Job, son plus proche prochain, c'est-à-dire sa femme, lui conseille de maudire Dieu pour se soulager. Et en tout cela, Job resta stoïque, presque zen. Il répond à Madame Job, « Mais tu es folle !»« Tu parles comme une folle, pardon. Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas le malheur. » En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Job résiste. Alors, entre parenthèses, j'ai lu hier, trop tard pour l'intégrer, mais tout un article que j'ai imprimé écrit par une infirmière, Mélodie Kaufmann, est infirmière en soins intensifs de cardiologie à Strasbourg, et elle suit en parallèle des cours à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Donc, c'est un gage de garantie d'excellence. Mais le titre, c'est « Maudit donc Dieu et meurt. Pourquoi pourrions-nous aussi comprendre la femme de Job ?» Et elle réhabilite un petit peu cette femme de Job qui, c'est vrai, on pourrait la juger un petit peu vite. Et elle les compare, elle la compare à tout ce personnel soignant ou les aidants de ceux qui accompagnent des personnes qui sont dans une situation de vie difficile, qui sont dans la souffrance, qui sont malades, d'une grave maladie lourde, et qui sont 24 heures sur 24 auprès de cette personne. Et elle voit dans cette réaction de la femme de Job un élan d'amour. Aussi, cette brève intervention de Madame Job, la révolte qu'elle exprime, à quelque chose de très, très humain, qu'il nous serait dommageable de rejeter d'emblée. Quoi que l'on fasse, au bout du compte, nous avons besoin de l'entendre pour mieux comprendre nos propres histoires et celles de ceux qui nous entourent. Ce livre de Job nous parle de crise, de perte, de deuil, de maladie, des réactions qui s'ensuivent, mais aussi de l'accompagnement par les proches, l'épouse ou les amis dans les moments les plus difficiles. Et elle parle un petit peu d'euthanasie. Maudit Dieu et meurt. Et on est en train en France de parler de ces questions de fin de vie. j'ai affiché une lettre du comité d'éthique évangélique présidé par notre ami et pasteur de Viry-Châtillon, Luc Oleknovitch, sur justement cette fin de vie, ce suicide assisté, etc. Une question importante. Voilà, la femme de Job, réhabilitée, mais une réaction forte quand même, qui a dû troubler Job. Mais qui reste stoïque, qui résiste. Et au chapitre 3, changement de ton, Job n'est plus si stoïque, peut-être que l'arrivée des trois amis, parce qu'il a des amis qui le regardent souffrir pendant 7 jours sans rien dire, déclenche en même temps que le dialogue la douleur qui jaillit comme un cri. Job ouvrit la bouche après ces 7 jours de silence, et c'est là qu'il dit « Et maudit le jour de sa naissance, et la nuit qui dit « Un enfant mâle est né ». Maudit soit la nuit qui dit « Un enfant mâle est né ». C'est lui. Alors, le mot « mâle », ce n'est pas le mot utilisé normalement pour désigner un homme, mais le mot vient d'une racine qui désigne la force ou la puissance. Il désigne un héros, un chef de guerre. Job a été un chef, un héros, et il ne l'est plus. Et il maudit le jour qu'il a vu naître. Il maudit, en fait, cette destinée que sa famille, son groupe social lui avait tracée. Maudit soit ce système qui m'a répété à l'envi depuis ma naissance que j'étais un homme fort, que j'étais un héros. L'homme fort qui n'a pas de problème, ou alors s'il en a, les surmonte avec bravoure et panache. J'entends parfois des gens, là, des gars, jeunes entrepreneurs, ou pas jeunes, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Maudit soit ce discours, dit Job, qui voudrait me cantonner dans ce rôle de chevalier invincible. Périsse, le jour où je suis né et la nuit qui dit un héros a été conçu. Job prend son mal en impatience. Il crie au jour, à la nuit, aux ténèbres, à la nuée, aux éclipses, au Léviathan, le monstre marin, peut-être l'hippopotame. Il crie à tout le monde et en général, et à Dieu en particulier. Et Dieu supporte le cri du juste. Dieu entend le cri du juste. Et encore une histoire dans le livre de Swindoll, un gars qui a vécu quelque chose de terrible. Je passe les détails. Mais il raconte que plusieurs nuits après, il a pris sa voiture et pendant toute la nuit, il a quadrillé les villes, les rues de sa ville. Pendant toute la nuit, il a crié à Dieu sa souffrance, sa colère, son écœurement. Et je cite, « Dans cette voiture, je lui hurlais des choses que je n'ai jamais dites à personne. C'était certainement horrible à entendre. » Il se souvient plus de tout ce qu'il a dit. « Je vidais tout mon sac devant le Seigneur. » Tout mon sac. Et à l'aube, il finit de se garer devant la maison, les mains toujours agrippées au volant, et il dit « J'ai été réconforté parce que Dieu peut entendre ce genre de choses. » Dieu supporte les cris de ceux qui souffrent injustement. Et le cri du chapitre 3 n'est que le début de toute une série de dialogues entre Job et ses trois amis qui se révèlent être de piètres consolateurs. Et ils vont bien attendre 7 jours avant d'ouvrir leur bouche, mais une fois qu'ils l'ouvrent, ils vont avancer toute une série de platitudes. Et nous parlerons de cela lors d'une prochaine prédication sur les amis de Job, dimanche prochain même, soyez là. Mais leur argument, en fait, des trois amis, va toujours tourner autour du fait que si Job est dans cette situation, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. Un discours appris par cœur. Un discours bien carré, un discours bien de l'époque. Et on a retrouvé effectivement des textes du Moyen-Orient ancien qui parlent de la souffrance. Mais elle est toujours due à la faute de l'homme. Même si elle est très vague, dans le Moyen-Orient ancien, l'homme qui souffre n'a de toute façon aucune excuse devant les dieux, avec un petit dé, j'insiste. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons Job. Et on peut se demander si on ne tient pas le même discours que les amis de Job ou que les penseurs moyen-orientaux antiques. Si tu as un problème quelque part, C'est que tu l'as cherché. Dieu n'a-t-il pas un plan merveilleux pour toi? Et donc, si tu es malade ou en souffrance, c'est que tu n'es pas dans ce plan merveilleux et qu'il faudrait quelque part te repentir. Et on entend parfois ce genre de raisonnement, ce discours officiel des bien-pensants qui pensent mal. Et c'est le discours que l'on appelle de ceux qui parlent de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui nous dit que si tu es malade ou malheureux, c'est que tu n'es pas béni. Un évangile qui fait des ravages sur des continents, en Afrique, mais sur nos continents aussi, en Europe, et aussi en France. Moi, j'ai entendu quelqu'un le dire au chevet d'un patient à l'hôpital. Si tu es béni, si tu es heureux, riche, et etc., c'est parce que tu es béni. Si tu es malheureux, pauvre, c'est parce que tu n'es pas béni. Les amis de Job sont dans le prêt-à-penser et ils n'en bougent pas au fil des pages. Leur discours reste le même. Et quand on lit les 37 chapitres de Job, les trois amis, on est frappé par le contraste qu'il y a entre Job et les trois amis. Les trois amis et même le quatrième sont extrêmement répétitifs et on se lasse à la longue. C'est long, hein. En plus c'est de la poésie. Ça ressemble un peu au discours de Fidel Castro qui a duré 3 heures, 4 heures. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de prise de risque non plus, il n'y a pas de découverte avec les amis de Job. On tourne en rond alors qu'avec Job, lui, évolue. Lui, il cherche franchement, il tâtonne. Sans crainte de se cogner, il va se défendre contre les accusations de ses amis. Il va progresser dans sa réflexion, il va utiliser la stratégie de la pelure d'oignon. C'est-à-dire, on s'attaque à la couche qui vient à nous en premier. Et plus progressivement, on pèle l'oignon. Et il s'attaque à la couche suivante. Et Job progresse dans sa douleur. Il est d'abord face à lui-même et à son impuissance dans Job 3, et il va ensuite questionner Dieu lui-même, Job 10, et il interroge ses amis sur leurs pensées convenues, chapitre 19, et puis il va interroger la société aussi dans laquelle il se trouve, le monde et son injustice permanente, aggravée même. Et on vit les mêmes choses. Alors, dans la pensée de Job, il y a des retours en arrière, mais Job avance dans sa réflexion. Ça va prendre du temps, mais il avance et il gagne en lucidité progressivement. Et Dieu va lui laisser le temps de risquer des mots, même déplacés, même violents sur sa douleur. Et Dieu lui laisse le temps et Job va le prendre pour trouver des mots qui conviennent à la situation qu'il est en train de vivre, comme il nous laisse du temps pour dire. Le questionnement, pour remettre les choses en question, pour remettre les pseudo-amis à leur place, pour interroger la société et pour interroger Dieu lui-même, pour mettre des mots sur sa douleur. Et Dieu nous donne ce temps de questionnement et de tâtonnement parce qu'il sait aussi qu'au détour d'une parole, d'une réflexion, l'homme va avoir comme des éclairs, comme des intuitions, comme des illuminations, comme des révélations. Et on connaît cette magnifique intuition de Job quand il va dire, alors est-ce que les feux d'artifice... Non, ils ne sont pas restés. C'était l'intuition de Job, celle du chapitre 19, où en plein milieu de sa souffrance, il y a Job qui dit, je sais bien moi que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière, après que ma peau aura été détruite, de ma chair, je verrai Dieu. Je suis allé voir une conférence du rabbin de Cannes, avec un prêtre aussi, qui parlait de Pâques, et il parlait de la Pâque juive, le rabbin. Et j'ai posé une question sur, y avait-il un lien entre la Pâque juive et la résurrection? Il m'a dit, il n'y a pas de lien, mais on parle de la résurrection, et il m'a cité Élie et la veuve, le fils de la veuve de Sarepta, ressuscité par Élie. Et puis Ézéchiel 37, la vallée des ossements. Mais il a oublié, j'y ai pensé après, il a oublié Job 19. Quelle intuition magnifique! C'est la Pâque! 1500 ans avant. Et puis il y a une autre intuition magnifique au chapitre 9. Il est là, Job, dans ce chapitre, à se plaindre de Dieu. Et il le fait devant Dieu. Comment pourrais-je plaider ma cause devant lui? Dieu est trop grand pour moi. Si on veut plaider contre lui ou s'il voulait lui chercher querelle, il ne répondrait même pas une fois sur mille. Et plus loin, dit-il, la vie me dégoûte. Mais au verset 32, il a comme une intuition fulgurante. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous entrions ensemble en jugement. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui puisse poser sa main sur nous deux. Qu'il éloigne son bâton de moi, que sa terreur ne me remplisse plus d'effroi, alors je parlerai et je ne craindrai pas. Mais puisqu'il n'est pas ainsi, je reste seul avec moi. Sa joie retombe, son espérance retombe. Job pense à tout d'un coup à un homme comme lui, qui pourrait servir d'arbitre entre lui et Dieu, et qui pourrait poser sa main sur nous deux, qui éloignerait le bâton de la colère de Dieu, qui lui permettrait de parler librement et de sortir de sa crainte. Mais il n'y en a pas. Mais puisqu'il n'en est pas ainsi, je reste seul avec moi, ou littéralement, mais ce n'est pas le cas, et il n'y a que moi avec moi. Et son intuition le rapproche, et il va le faire progressivement, du mystère de l'incarnation. Et en pensant à cet arbitre, comment ne pas penser à Jésus, cet homme qui servirait d'arbitre et qui poserait sa main sur mon épaule d'homme en délicatesse avec Dieu, un médiateur avec qui je peux parler d'homme à homme et qui viendrait me réconcilier avec le Dieu Tout-Puissant et avec moi-même et avec les amis. Et Jésus est venu, oui, et je ne suis plus seul avec moi. Job, en exprimant ses pensées les plus profondes, anticipe de plusieurs siècles la bonne nouvelle de Dieu le Père qui délègue son Fils pour poser la main sur ton épaule, pour rétablir le lien brisé avec le Père et nous, le médiateur, celui qui permet la réconciliation avec Dieu. Et dans le monde de Job, dans le pays d'Outz, le pays de tous les malheurs possibles, il y a quelqu'un pour mettre sa main sur votre épaule, Jésus-Christ. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, arbitre, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie, rançon pour homme. Alors, je ne veux pas aller trop vite et m'asseoir à côté des amis de Job pour donner des réponses toutes faites ou des raccourcis, même très spirituels, du genre « Tu verras, avec Jésus, tout ira bien ». Ça, c'est de l'évangile de la prospérité. Non, je ne m'assierai pas du côté des bien-pensants, ni sur le banc des méchants d'ailleurs, mais je veux m'asseoir à côté de Job, dans le pays d'Outz, qui est là, lui, avec son histoire, toute une histoire, pour dire à tous ceux qui sont dans le même pays que lui, le pays de la souffrance sans raison, qui sont dans le monde de Job, celui de l'injustice, leur dire que Dieu n'est pas loin, qu'il est proche de ceux qui ont faim et soif de justice, et qu'au jour de leur détresse, il est leur seul abri.